Be Well, der gesunde Podcast zu Lützeburg mit mir, dem Sarah Catani, Journalistin, Globetrotter, Yoga-Prof, Mom. Ja, schon ganz unterschiedliche Rolle, wie ich für ihn von uns. Aber wie ich für ihn von uns, will ich am Anfang auch gerne mehr gesund, mehr equilibriert und einfach mehr glücklich leben. Aber wie wir das alle gut können machen, das recherchieren wir an diesem Podcast. Heute gehen wir damit Dave an uns Psyche wollen, nämlich bei Hypnotherapie. Hypnotherapie basiert auf Psychotherapie, erschafft man bei anderen Bewusstseinszustand, die unter dem Begriff Trance zusammengefasst gehen. Das basiert durch Techniken mit Suggestionen und Formulationen, also da möglich, auf Partie von unserem Unbewusstsein zu kommen, auf dem wir am alltäglichen Leben am Funk hin aksehen. Auf jeden Fall da ist darüber zu schwatzen. Agieren schaut Vanessa Grandjean. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Avec plaisir.
Alors, avant de nous hypnotiser ou avant au moins d'en parler, on va se présenter un peu. Mm-hmm. Vanessa, vous êtes psychothérapeute, mais aussi responsable et coordinatrice des psychologues au CHL, donc au Centre Hospitalier du Luxembourg. Et vous vous engagez aussi à développer la place de la psychologue et de la psychothérapie au milieu hospitalier.
Tout à fait.
À améliorer un peu la visibilité aussi, hein, et vous faites par exemple des journées thématiques en psychologie pour les professionnels de la santé. C'est ce que j'avais vu, des ateliers en psychologie pour les patients, oui. Pour les familles. Et puis vous êtes aussi une participatrice active de différents projets en psycho-oncologie,
tout à fait.
Soins palliatifs,
oui.
Psychologie de la santé,
oui.
Voilà. Et puis vous travaillez beaucoup avec l'hypnothérapie.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
Voilà.
Et donc déjà, peut-être pour commencer, une question très simple, mais qu'est-ce que c'est l'hypnothérapie? Qu'est-ce qu'on peut entendre sous hypnothérapie, hypnose?
Alors, l'hypnothérapie, tout d'abord, quand on entend parler, on entend beaucoup par rapport à Mesmer, qu'on voit à la télévision, qui nous hypnotise. Donc, l'hypnothérapie que nous, on pratique en milieu hospitalier, notamment avec les patients, c'est vraiment ce qu'on appelle un peu une prise en charge indirecte, une hypnose qui permet un accompagnement. Par accompagnement, c'est vraiment permettre au patient de développer des ressources qu'il a déjà en lui, mais qu'il n'a pas accès pour pouvoir les utiliser quand il fait face à des événements de vie difficiles. Donc, on part du principe que le cerveau est un peu comme un iceberg, hein. Donc, on a la partie qui est hors de l'eau, c'est la partie à laquelle on a accès, et la partie sous l'eau qui est remplie de ressources. Et c'est dans cette partie-là qu'on a besoin quelquefois d'aller rechercher des informations, rechercher des ressources pour pouvoir les amener à la surface et les utiliser quand on fait face à des événements de vie difficiles. Donc, nous, à l'hôpital, on travaille beaucoup dans le cadre de l'oncologie, dans le cadre du cancer du sein, que ce soit au moment d'un diagnostic. Ces derniers mois et même un an et demi, j'ai beaucoup travaillé dans le Covid et donc on a dû apprendre aux patients à utiliser des ressources en eux pour faire face à ce qu'ils traversaient à l'hôpital. Donc l'hypnose est un moyen comme un autre pour pouvoir activer ces ressources.
Et comment est-ce que ça se passe? Parce que là, on dit l'hypnose pour activer les ressources, c'est des ressources qu'on a déjà en nous, mais qui ne nous sont pas toujours visibles. Comment est-ce qu'on fait pour y accéder?
Alors, on le fait un peu spontanément, chacun à sa façon. Par exemple, quand on fait un sport ou quand on fait une lecture, on a l'impression un peu que le temps est un peu différent. Donc ça, c'est un moment où vous êtes absorbé d'une certaine façon. Et donc ça, vous êtes déjà dans ce qu'on appelle un peu dans un état hypnotique. Donc cet état hypnotique, vous y accédez en faisant de l'hypnose, de la méditation, en faisant d'autres activités. L'hypnothérapie elle-même, on le fait de façon formelle et informelle. Donc, formel, c'est vraiment avec un exercice où on permet à la personne de s'installer, on utilise une certaine voix, certains mots, et la personne, voilà, rentre un peu là-dedans et on lui donne cette possibilité d'accéder à ses ressources. La personne, à tout moment, garde le contrôle. Parce que c'est ça qui fait peur avec l'hypnose.
Oui, oui, parce qu'on a ces images en tête où les gens vous font faire des choses.
Tout à fait. Bon, des études ont montré que des personnes sont beaucoup plus suggestibles, si je puis dire, que d'autres. Hein, mais globalement, on a tous cette capacité en nous d'aller chercher et d'activer nos ressources. Donc, on peut le faire en étant simplement assis sur une chaise, couché dans un lit. On accompagne des personnes, notamment dans les IRM aussi, qui ont peur, des phobies. Et donc, on leur permet de pouvoir faire face. Donc, c'est une façon un peu de se distraire et de s'évader. Donc, le corps est là où il est. Ça permet ainsi de pouvoir faire des actes médicaux. Mais la conscience s'évade ailleurs pour aller chercher les ressources dont elle a besoin pour que le corps puisse faire face à ce qu'il doit faire face.
Mm-hmm. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est lié un peu à la maladie quand même? Parce que est-ce qu'on va aussi aller chercher peut-être des causes, ou est-ce qu'on va aller chercher des blocages ou pas trop? Est-ce que c'est plus pour justement arriver à vivre avec ce qui se passe?
Oui, c'est plus dans ce sens-là, de vraiment développer le comment. Mm-hmm. Beaucoup de patients qui viennent nous trouver sont toujours dans la recherche du pourquoi.
Ouais.
Pourquoi j'ai eu telle maladie? Est-ce que l'hypnose va nous permettre d'aller retrouver un peu les causes, etc.? Donc nous, on le dit rapidement, même les médecins, qu'on ne sait pas pourquoi on tombe malade. Par contre, l'hypnose et les autres techniques permettent de développer comment on fait face à ce qui se passe. Parce que c'est ça qui est important. Le pourquoi ne changera pas la situation actuelle, mais par contre, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre avec les traitements, comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter, ça c'est hyper important.
Et comment est-ce que ça se passe, par exemple, une séance? Vous pouvez nous décrire un peu comment ça fonctionne?
Alors, par exemple, une séance, si on est dans une chambre avec un patient, donc on propose au patient de soit rester installé dans son lit, soit de s'installer sur une chaise, et nous on se met à côté. Et là, on propose au patient tout d'abord de nous décrire s'il y a un endroit dans lequel il se sent bien, où il se sent en équilibre, où il se sent en sécurité. Donc, ça peut être des vacances, ça peut être un endroit à la montagne, au bord de la mer ou ailleurs. Et alors, nous, c'est surtout un exercice qu'on dit que c'est la voix qui accompagne. Donc, en hypnose, c'est hyper important, en fait, ou même en méditation, hein, d'avoir se sentir à l'aise avec la voix de la personne qui accompagne. Et là, on accompagne la personne dans son cheminement. Ça peut être aussi un exercice où on reste basé simplement sur le corps, sur la façon dont le corps se sent, et on fait voyager des sensations.
Oui, donc moi venant du domaine du yoga, je ressens quand même que c'est très proche de la méditation.
Oui, tout à fait. Et ensuite, il y a différentes techniques au niveau de l'hypnose où on peut aller de façon beaucoup plus profonde pour travailler des événements difficiles. Par exemple, des personnes qui ont vécu des traumas, avec certains exercices d'hypnose, on peut prendre une certaine distance. Voilà, il y a des exercices de soupoudrage qu'on appelle.
Soupoudrage,
c'est vraiment pour permettre de mettre des petites informations par rapport à l'événement. Et c'est vraiment l'idée de prendre toujours de la distance pour reprendre du contrôle aussi par rapport aux situations.
Et au fait de reprendre les ressources qu'on n'avait peut-être pas à ce moment-là.
Tout à fait.
De les voir aujourd'hui et les ressources qu'on a, mais qu'on n'avait peut-être pas au moment du trauma.
Tout à fait.
Et pour revivre ça et puis... ne plus l'avoir comme ça dans sa vie.
Alors, c'est surtout quand on vit quelque chose de difficile comme un trauma, le but, on ne l'oublie pas.
Oui, voilà.
On ne l'oublie pas, mais par contre, quand on y repense, on arrive à le voir comme un vieux film ou avec une certaine distance.
Sans avoir une émotion,
une émotion qui est quand même gérable. Parce que c'est compliqué d'avoir zéro, comme on dit, au niveau d'émotion. Mais que ça soit d'une façon gérable. Et l'hypnose, on ne fait pas à la place d'eux. Ça, c'est super important. C'est vraiment un accompagnement. Donc, c'est vraiment permettre à la personne de l'accompagner pour qu'elle-même arrive à utiliser, donc fasse de l'auto-hypnose après, pour pouvoir utiliser les ressources et pouvoir avancer.
Et les gens, ils parlent, ils vous disent qu'est-ce qu'ils ressentent, ou ça se passe plutôt dans leur tête à ce moment-là?
Il y a les deux possibilités.
D'accord.
Il y a des personnes, je veux dire, durant la séance d'hypnose, on peut leur poser des questions, comment est-ce que vous vous sentez, faire aussi un geste au niveau de la main, du bras ou de la tête pour indiquer où est-ce qu'ils en sont. Ou d'autres personnes ne préfèrent pas parler et on leur demande simplement à la fin de la séance comment est-ce qu'ils se sont sentis.
Et pourquoi vous êtes allé dans cette direction? Qu'est-ce qui vous a amené vers l'hypnose, vers l'hypnothérapie?
Alors, j'ai rapidement commencé à chercher de genre de formation quand j'ai commencé à travailler au centre hospitalier, parce que j'ai travaillé directement, je veux dire, dans les équipes de soins palliatifs et en oncologie, et je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait développer des outils pour accompagner les personnes. Parce que quand on travaille en soins palliatifs, on accompagne les personnes avec la parole, mais à un moment donné, c'est pas suffisant, parce que les personnes ont ce qu'on appelle beaucoup des symptômes pénibles, donc que ce soit des douleurs, des problèmes au niveau de la respiration, et c'est important de leur trouver des techniques pour leur permettre de se stabiliser, en fait. Et l'hypnose aide énormément par rapport à ça.
C'est aussi une prise de conscience qui va au-delà de ce qui se passe autour de nous, en fait.
Tout à fait.
Voilà. En lien avec la mort aussi, en lien avec la maladie aussi.
Voilà.
Donc peut-être de trouver un peu autre chose à ce moment-là, les ressources qui sont en soi.
Oui.
Et au niveau de l'oncologie, qu'est-ce que ça permet?
Alors, au niveau de l'oncologie, on peut permettre, par exemple, aux personnes qui ont peur lors d'un traitement de chimiothérapie ou lorsqu'on fait une prise de sang, de pouvoir un peu mieux gérer ça. L'hypnose aide notamment au niveau des nausées. Mmh. On a vu aussi que l'hypnose aidait sur le long terme au niveau des bouffées de chaleur. Des études américaines ont notamment montré que faire des séances d'hypnose avant une opération permettait d'avoir une meilleure récupération au post-opératoire. Donc, on utilisait moins d'antidouleurs parce qu'on préparait la tête et on préparait indirectement le corps à faire face à ce qui allait se passer. Donc, c'est vraiment maintenant bien, ouais. utilisé. Nous, on voit notamment au centre hospitalier, il y a même beaucoup de médecins qui commencent à être formés à l'hypnose, des anesthésistes, des infirmières. On travaille notamment avec une infirmière sophrologue qui travaille avec de l'hypnose dans tout ce qui est au niveau de la gastro-entérologie, donc avant de faire des gastroscopies. Donc, on propose aux personnes de pratiquer l'hypnose avant.
Ah, c'est intéressant, oui, parce que c'est ce genre de choses qui fait peur ou qui où les gens se crispent, en fait, où le corps se crispe parce qu'il y a des pensées qui vont avec. Et avec ça, on arrive vraiment à...
C'est un accompagnement. Et alors, selon les personnes, il y a des personnes qui sont vite réceptives, si je puis dire, et des personnes où il faut travailler les peurs. Donc moi, j'ai mis en place aussi, je travaille beaucoup avec de l'EMDR maintenant. Donc c'est... l'EMDR, c'est Eye Movement Desensitization Reprocessing. Mm-hmm. Donc c'est une technique un peu pour la gestion des traumas. Donc bien souvent, les personnes qui vont dans les IRM et qui ont peur de l'IRM et qui demandent un accompagnement en hypnose, quand on creuse un peu, c'est des personnes qui ont souvent des claustrophobies ou qui ont eu des choses qui ont été difficiles. Et donc, on désensibilise ça, on enlève un peu le trauma ou le stress qu'il y a par rapport à ça avec de l'EMDR, et après, on peut installer correctement de l'hypnose.
Vous pouvez revenir un peu sur l'EMDR, comment ça fonctionne, parce que là...
Alors, l'EMDR, on travaille en fait notamment avec les mouvements oculaires des yeux.
Oui, je l'ai déjà vu, mais ça serait intéressant de voir un peu.
Voilà, la stimulation bilatérale droite-gauche. Donc, on part du principe que le cerveau est un peu comme un... Le cerveau est un peu comme un ordinateur, en fait. Ouais. Et à un moment donné, quand il y a un événement de vie difficile qui s'est mis en place, le cerveau s'est mis en mode pause. Et donc, en mode pause, il ne sait plus correctement intégrer, digérer les informations. Et donc, ça crée ce qu'on appelle une mémoire traumatique. Et cette mémoire traumatique empêche vraiment d'intégrer aussi les ressources positives. Et donc, en faisant de l'EMDR, on appuie sur play. Mmh. Et donc, on permet vraiment au cerveau de digérer les événements difficiles et d'intégrer ces événements difficiles dans la vie, en fait, et dans les ressources. Et c'est comme ça qu'on fait circuler au mieux le tout. Et donc, on se rend compte vraiment que c'est des thérapies qui sont complémentaires.
L'hypnose et
l'EMDR. Oui, on l'utilise vraiment de façon complémentaire auprès des patientes.
Mmh. Mais donc là, vous voyez, de manière générale, vous voyez des patientes qui sont déjà à l'hôpital.
Oui.
C'est-à-dire qui viennent déjà pour un problème spécifique.
Tout à
comme
fait.
Vous travaillez en soins palliatifs, en oncologie, bon, là, c'est des thématiques assez sérieuses déjà. Mais l'hypnose, l'hypnothérapie pourrait aussi être utilisée par des gens qui ne sont pas malades.
Tout à fait. Il y a des personnes qui sont formées, qui ont des protocoles qui existent, qui sont formées notamment pour l'arrêt du tabac. Voilà, moi, je suis pas du tout formée par rapport à ça, mais il y a des gens qui l'utilisent. Il y a des gens qui utilisent l'hypnose pour la gestion du stress. Donc, ce sont vraiment toutes des techniques pour utiliser les ressources qu'on a en nous. De vraiment pouvoir permettre à la personne de se poser, de développer, d'aller dans son iceberg. Mais il y a plein de méthodes d'y aller. L'hypnose en est une, mais la méditation en est une autre, la sophrologie en est une autre. Ce qui est important, c'est que la personne se sente en confiance avec la thérapeute avec qui elle est. Mmh. Ça, c'est la base. Mmh. Parce que si la confiance n'est pas dedans et qu'on se sent pas à l'aise, ben, le travail ne va pas bien se passer.
Mmh. Oui, donc vous aviez aussi proposé à un moment donné l'oncologie intégrative,
oui.
qui regroupait justement toutes ces différentes oui. thématiques, même le yoga, où on était là aussi, mais le shiatsu, je crois, la réflexologie.
Enfin, il y avait de la sophrologie.
Des choses différentes. Oui. Donc, vous voyez, parce que vous faites ça déjà depuis quand même de nombreuses années, vous voyez vraiment que ça a des effets différents que si on reste juste sur les thérapies médicales classiques.
Mais ce qui se passe, c'est que j'en parlais justement avec un médecin tout à l'heure sur le temps de midi. Actuellement, les patients qui sont traités dans le cadre de l'oncologie, eh bien, ce sont des patients qui restent malheureusement avec des symptômes pénibles sur le long terme. Mmh. Et donc, pour ces personnes-là, donc elles restent avec des symptômes comme de la fatigue, des troubles cognitifs, quelquefois des douleurs, elles ont besoin d'un accompagnement qui soit en parallèle, si je puis dire, aux traitements médicaux qui sont présents. Et donc, on se rend compte que toutes ces thérapies, si elles sont inscrites dans une démarche quand même médicale et encadrée, ont vraiment un effet assez positif. Mmh. Donc, c'est ça qu'on avait mis en place, ce programme d'oncologie intégrative, qui malheureusement a dû se stopper avec la pandémie, mais qui avait quand même un intérêt assez positif pour les patients.
On va pas trop aller peut-être dans le domaine de la pandémie, mais quand même, vous avez dit, vous avez aussi travaillé avec l'hypnose là-dessus.
Oui.
Dans quelle direction?
Ben justement, avec la pandémie, beaucoup de patients qui étaient hospitalisés avaient très peur en fait.
Ouais. Parce qu'il y avait ce truc de l'extérieur.
De l'extérieur. Déjà, ouais. Et puis un des premiers symptômes, c'était quand même la détresse respiratoire.
Ouais.
Voilà. Mmh. Et donc cette détresse respiratoire, vous liez ça avec de l'anxiété et la peur de mourir, parce que c'est ce qu'on entendait véhiculer autour de nous dans un premier temps. Eh bien, l'hypnose était importante pour permettre aux personnes vraiment de prendre de la distance et de se rassurer et de se sentir bien. Mmh. Et cet exercice-là, on l'a mis aussi également en place par rapport aux soignants de l'hôpital. Donc, on a vraiment développé tout un programme d'hypnose et d'accompagnement pour le personnel soignant, pour développer des ressources pour justement continuer à sentir au mieux au niveau du travail.
D'accord. Donc, au fait, c'est le personnel du CHL qui est allé en hypnose.
Oui. Voilà, okay. On a proposé des séances pour tout le personnel de façon générale, hein, ouais. Donc le personnel informatique, administratif. Et puis, je rentrais dans les cohortes, hein, donc dans les unités Covid, et on proposait des séances hebdomadaires pour les soignants. Après leur en groupe.
Comment ça se passe en groupe? J'imagine, enfin, je sais pas. J'imagine toujours que c'est une personne avec un thérapeute, donc j'imagine pas comment ça se passe en groupe.
Alors en groupe, on propose à tout le monde de s'asseoir, comme on est assise là maintenant, par exemple, ouais. De simplement fermer les yeux et d'écouter ma voix qui les accompagne. Et donc là, pareil, on part soit sur des sensations corporelles, et là, le but, c'est vraiment de leur permettre de fermer la journée pour démarrer la suite. L'idée, c'est de, voilà, à travers cette séance, voilà, vous rangez dans cette séance tout ce qui s'est passé depuis votre travail ce matin, vous rangez tout dans une partie de votre cerveau, dans une boîte, et vous rentrez chez vous pour continuer le reste de votre journée. Donc, ça permet un peu d'évacuer. Parce qu'on se rend compte que le cerveau est un peu comme une armoire, une armoire quelquefois où c'est vraiment le bazar complet.
Oui.
Et quelquefois, on doit un peu trier, jeter, hein, comme on le fait, comme on jette les poubelles toutes les semaines. Bah, quelquefois, il faut jeter des informations pour laisser de la place à de nouvelles informations. Mm-hmm. Quelquefois, on y arrive spontanément, en faisant la lecture, en faisant du sport, en allant boire un verre avec des amis. Et quelquefois, on n'y arrive pas. Et ça s'est encore beaucoup plus vu avec la pandémie, dans le sens que tout le monde, à mon avis, s'est retrouvé bloqué dans ses ressources. On pouvait pas aller faire du sport comme on voulait, on pouvait pas aller boire un verre avec des amis comme on voulait.
Tout ce qu'il y avait comme
contrainte a fait qu'on avait moins de ressources. Et donc, l'hypnose a aidé beaucoup à développer ces ressources, même si on pouvait pas les faire, on les faisait d'une autre façon.
Oui, et puis l'hypnose, après, elle pouvait se faire justement aussi en ligne. C'est ce que vous faites encore maintenant, même avec des patients, des patients en oncologie, vous travaillez en ligne.
Oui, on propose ça une fois par semaine, donc tous les mardis à 13h30. Donc, les patients se connectent par Webex. Et alors, on leur fait des exercices pendant une heure, en français ou en luxembourgeois. On est 3 psychologues en oncologie à faire ça, à proposer ça.
C'est super intéressant. Mais vous disiez au début que presque tout le monde est sujet à pouvoir faire de l'hypnothérapie. Est-ce qu'il y a des personnes où ça marche pas?
Il y a des personnes qui ça marche pas parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas. Et ça, il faut pouvoir discuter de ça. Il faut jamais forcer les gens. Il y a des personnes qui ont vraiment un besoin de contrôler, il y a un besoin de ne pas lâcher, qui ne veulent pas. Et donc, ça, il n'y a aucun souci. Donc, il existe plein d'autres techniques aussi par rapport à ça. Parce que quand on dit aux personnes, voilà, on va vous proposer une séance d'hypnose, tout de suite, c'est, non, moi, je veux pas qu'on m'hypnotise. Donc, j'explique, non. On vous accompagne pour faire quelque chose que vous savez déjà parfaitement faire. Quand vous faites une activité, quand vous allez vous balader en forêt, à un moment donné, votre conscience, elle s'évade à droite, à gauche, c'est un peu la même chose. Mmh.
L'hypnothérapie avec un cas concret, comment est-ce qu'on peut s'imaginer?
Alors, par exemple, je peux donner l'exemple d'une patiente que je suis maintenant depuis plusieurs années et avec son hématologue, je l'accompagne lors de sa ponction de moelle. Donc, la ponction de moelle est quand même un acte qui fait peur et qui peut être par moments douloureux. Et donc, c'est par rapport à ça que c'est important d'avoir un accompagnement. Et donc, moi, je l'accompagne la patiente à ce niveau-là. Donc, au niveau, je lui permets de rentrer en hypnose. Et de façon à ce que quand le médecin arrive, elle est dans un état modifié de conscience, de façon à ce qu'elle ressente moins au niveau de la sensation lorsque le médecin fait la ponction de moelle. Et le patient sent les choses différemment, et le médecin verbalise qu'il ressent les choses différemment aussi, parce que le corps est beaucoup plus détendu. Voilà. Et une autre chose importante que j'y pense là maintenant, c'est ce qu'on appelle aussi l'hypnose conversationnelle. Donc c'est une façon de parler autrement. Donc il faut savoir que on se rend compte que la négation, le corps ne l'entend pas et la tête ne l'entend pas. Donc si par exemple je vous dis ne pensez pas à un éléphant à poils roses,
forcément, je le vois devant moi.
Voilà, et j'ai dit ne pensez pas. Donc voilà, donc ça c'est important aussi. Donc là on est en train de voir aussi pour développer tout ce qui est la communication là-dessus. Donc pouvoir accompagner quelqu'un, on n'est pas obligé de la mettre la personne en hypnose formelle, donc ferme les yeux et qu'elle pense à autre chose, mais juste la façon d'accompagner le patient avec les mots qu'on dit, les mots à connotation qui sont positifs. Comme ça, en tournant les choses positives, ça permet de sentir les choses autrement. Au lieu de dire « attention, ça pique, ça va faire mal », vous allez sentir une chaleur qui va se diffuser dans votre corps. Voilà, et ça c'est quelque chose qui permet d'être développé lorsqu'on fait des formations en communication ou des formations au niveau de l'hypnose.
Et les gens, est-ce qu'ils rentrent vraiment dans une transe parfois? Est-ce qu'il faut les ramener vers ici?
Oui, ben ça par rapport à ça, nous on a des techniques, hein, donc on voit un peu, on voit les manifestations physiques par exemple de la personne, donc on ressent, on voit par exemple les épaules qui descendent, on voit quelquefois des mouvements oculaires des yeux lorsque les yeux sont fermés ou on voit certaines, on remarque certaines sensations en face de la personne et là-dessus, on peut analyser les choses et puis il y a une façon de les faire revenir à chaque fois, de leur faire revenir simplement dans la pièce, de prendre le temps, d'ouvrir les yeux et on fait ce qu'on appelle un peu des suggestions en leur disant voilà, après vous allez reprendre le cours de votre journée simplement en gardant avec vous ce que vous avez appris ou peut-être pas appris aujourd'hui. Donc ça reste beaucoup l'hypnose de Milton Erickson, c'est vraiment cette hypnose-là auquel je suis formée, c'est vraiment de l'indirect. Donc on ne va pas aller au direct, parce que l'hypnose directe, ça ne marche pas chez tout le monde, donc asseyez-vous, fermez les yeux, ça ne marche pas. On les invite peut-être, s'ils veulent, peut-être pas, à ressentir certaines sensations. Et là, ça vraiment laisse cours, si je puis dire, à la conscience d'activer ce qu'elle a envie d'activer.
Et donc, majoritairement, dans le milieu clinique, on travaille sur des peurs, on travaille sur choc aussi, puisque si on a une nouvelle de cancer, de traitement, de choses comme ça, sur des choses, le IRM, donc c'est des choses quand même qui se passent dans un laps de temps, il faut rester calme pendant 20 minutes, une demi-heure, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres domaines en l'hôpital où c'est fait, par exemple, chez les enfants ou
Ça se fait aussi chez les enfants, notamment par rapport à des examens médicaux. On propose aussi, il y a des infirmières qui sont formées. Il y a des infirmières qui sont formées aussi à la clinique de la douleur. Donc vraiment pour soit des actes médicaux douloureux ou soit pour leur apprendre vraiment des techniques de ressources.
Est-ce que les gens sont au courant, les patients qui viennent, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils peuvent demander d'avoir un accompagnement en hypnose?
Alors, de plus en plus, donc les médecins, notamment les oncologues chez nous à l'hôpital, sont au courant de nos formations. Donc, eux-mêmes ont assisté ou ils ont eu des retours de patients. Et donc, eux, ils expliquent directement, parce que la demande, elle passe mieux quand elle vient directement du médecin s'occupe du patient. Et donc, ils expliquent en disant, voilà, nos psychologues sont formés à telle technique. Vous pouvez leur faire confiance. Et de là, ensuite, nous, on explique les choses. Ensuite, le patient peut lui-même se renseigner. Il va sur le site de l'hôpital et il va trouver les informations. On avait organisé, je pense que c'est en 2019, on avait fait une grande journée justement sur l'hypnose. Hein. Donc là, il y avait même des sages-femmes qui ont parlé, parce qu'on a des sages-femmes qui font
L'hypnobirthing, je me rappelle, j'avais fait ça aussi. Donc c'est l'hypnose avant de donner des sens à un bébé,
Voilà. Et notamment, il y a une sage-femme, elle a fait son mémoire sur l'hypnose après au niveau de la douleur en post-allaitement.
Ah oui.
Voilà, donc c'est en faisant des études et en montrant que ça fonctionne vraiment bien. Donc l'hypnose peut vraiment se mettre un peu partout dans le domaine de la santé.
Et vous-même, vous pratiquez l'hypnose aussi?
Alors, ce qui montre en fait, c'est que bien souvent, maintenant au fur et à mesure des années, souvent quand on fait une séance d'hypnose, on se met en auto-hypnose.
Ah ouais.
Voilà, donc ça se fait de plus en plus naturellement, sans même qu'on s'en rende compte en fait. Voilà.
Oui, donc c'est pour ça que vous avez le sourire comme ça, vous allez bien.
Oui.
Parce que justement avec tout, parce que forcément si vous travaillez là-dedans, plus en plus vous venez dans les moments.
Voilà. Et puis on développe différentes hormones qui se mettent en place au niveau du corps et qui fait qu'on peut se sentir bien.
Ok, super, super intéressant. Donc ça, c'était un peu dans le lien aussi avec l'Octobre Rose, où on parle de ces thématiques, où on essaye de voir un peu, et là, on voulait voir un peu donc quelles sont aussi les options alternatives pour les patients, les patientes qui sont dans ces états de vie pour le moment. Pour les gens qui écoutent ça, il y a aussi un site où on peut s'informer un peu sur les praticiens au Luxembourg, qui utilisent aussi l'hypnothérapie. C'est imel.lu, c'est l'Institut Milton Erickson Luxembourg.
Oui, tout à fait.
Où il y a aussi des formations pour les psychologues ou pour les généralistes.
Voilà, pour les médecins, pour les dentistes, pour les kinés, pour les infirmiers.
Les dentistes,
en fait.
Tiens, ça oui, aussi. Ça serait bien.
Oui, il y a les dentistes qui sont formés à l'hypnose, et ça aide beaucoup, hein, notamment pour les enfants ou pour au lieu d'anesthésier, ben on peut faire une séance d'hypnose.
Est-ce que c'est quand même assez récent tout ça? Enfin, est-ce que c'est quand même récent que récent, je veux dire, où est-ce que ça se situe dans les dernières années?
Ça vient de 10-20 ans.
Oui, voilà.
Déjà 10-20 ans que ça s'est pas mal développé. Et après, au niveau des études universitaires, ça commence à se développer de plus en plus, hein, notamment à Liège. C'est fort répandu, hein, au CHU de Liège. Il y a notamment Dr Fémonville, qui est quand même un médecin anesthésiste de réputation, qui a vraiment créé tout un domaine par rapport à ça. Et donc après, c'est venu maintenant vers le Luxembourg. Et voilà, ben, le président de l'Institut Milton Erickson, c'est notamment Dr Klopp, qui est médecin anesthésiste. Chez nous, au CHL, on a aussi plusieurs médecins anesthésistes qui sont formés. Et voilà, c'est toutes des personnes de référence, parce que quand c'est référencé, comme on a discuté sur le plan médical...
Oui, c'est autre chose que ça. C'est quelqu'un qui veut vous hypnotiser pour vous faire faire des choses.
Voilà, tout à fait. Voilà, on sait, la personne, on a tous une profession médicale ou paramédicale à la base d'office. Et ensuite, on peut permettre un accompagnement. Et ça, c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Si je puis dire, si vous devez aller voir quelqu'un, un praticien, assurez-vous d'abord de sa formation de base. Mm-hmm. Hein, parce que malheureusement, le titre d'hypnothérapeute ou de praticien n'est pas reconnu.
Ouais, voilà.
Donc, tout le monde, demain matin, peut mettre sur sa pancarte ça. Mm-hmm. Donc, voilà, pour être encadré, c'est important de voir la profession de base de la personne parce qu'à ce moment-là, elle a déjà des bases déontologiques, scientifiques. Mm-hmm. Et l'hypnose est un outil en plus.
Super, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Vanessa Grandjean, à la prochaine.
Merci.
Be well. Merci für die Nullauschtrin und auf dieser Platz. Und schon auch merci der CMCM, die diesen Podcast unterstützt. Ihr könnt also auch Feedback geben oder Informationen aufrufen auf bewell@mosquito.lu oder auf die sozialen Netzwerke. Und in dem Sinn, be well!